Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est content de vous retrouver cette semaine pour parler d'astronomie avec nous au micro. C'est le 89e épisode de l'émission. Et aujourd'hui on est trois dans le studio, Fred qui vous parle, Pierrick et Camille.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors on vous rappelle comme d'habitude le podcast de l'émission sur le site de RDWA, rdwa.fr. Vous allez dans les émissions thématiques et là vous trouvez l'Étoile Polaire avec toutes les émissions depuis le début, illustrées par les photos du ciel et bien de Rémi et puis d'Axel. Voilà, on vous rappelle aussi le mail de l'émission, astro-rdwa@protonmail.com. Vous pouvez nous joindre si vous voulez participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Œil, ou bien si vous voulez tout simplement nous laisser des commentaires. Voilà pour cette petite introduction habituelle. Alors on en profite encore en cette période avant l'été là pour vous rappeler les petits événements qu'on organise. Il y en a deux. Il y a tout d'abord On the Moon Again qui va se dérouler 7 et 8 juin, le week-end là, du 7 juin, vendredi, samedi, dimanche. Alors évidemment, en fonction de la météo, mais on va amener les télescopes sur la place de la cathédrale à Die, à partir de la fin d'après-midi, pour vous faire observer la Lune, et cette année aussi le Soleil. On rappelle encore On the Moon Again, cet événement qui en fait est quasiment mondial.
Ouais.
Et qui en fait a pour but de pousser tous les astronomes amateurs qui ont un télescope à le sortir pour en faire profiter tout le monde et observer la Lune ce jour-là. Donc ça c'est pour le premier événement, et le deuxième c'est Marignac. Donc Marignac fête les étoiles pour sa 4e édition cette année. Et là ce sera samedi 19 juillet pour la grande soirée publique. On vous donnera un peu plus tard, là, au mois de juin, le détail un peu de l'événement. En tout cas, vous pouvez déjà réserver la date 19 juin. Pardon, 19 juillet, merci Pierrick. Et petit rappel aussi, c'est que cette année, on a décidé de vous proposer une soirée le 18. Alors c'est une soirée sur inscription cette fois. Donc je vous redonne le mail, astro-rdwa@protonmail.com. Et là, c'est pour apprendre à utiliser un télescope.
Soirée initiation, découverte en petit comité pour...
Oui, il y aura un nombre de places limitées.
Ouais, pour avoir un moment privilégié pour apprendre à servir, observer, avoir un temps peinard, quoi.
Alors, pour vous donner un peu envie aussi, la soirée qu'on organise à Marignac, pour ceux qui sont déjà venus, c'est toujours à prix libre. Là, sur cet événement, on a décidé de mettre un petit frais de participation. On pensait mettre autour de 20 euros. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Donc si vous avez 20 euros à mettre, c'est un peu plus qu'un paquet de clopes. Vous pouvez venir passer une soirée avec nous pour apprendre.
Au lieu d'acheter un paquet de clopes, voilà, venez.
Pour apprendre à utiliser un télescope.
Et aussi, si vous hésitez sur le matos, que vous n'y comprenez pas grand-chose, vous hésitez entre les différents modèles Dobson, monture, jumelles, etc., bah, ça peut être aussi un moment pour parler de tout ça calmement et choisir un matériel qui convient.
Tout à fait.
Voilà.
Je crois qu'on a tout dit pour cette introduction d'émission. Alors, le sommaire de l'émission. On va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir. Et puis ensuite, ce sera la cosmomythorubrique de Pierrick. Cette semaine, tu nous parles de la pensée du cosmos grec.
Ouais, en partie. On va essayer d'expliquer un peu comment ils voyaient les choses.
En vision des choses.
Ouais.
Et après la pause musicale, ce sera la rubrique astrale. Et là, cette semaine, je vais vous parler d'astronomie infrarouge. Donc, je vais faire une petite série d'émissions en fait sur l'astronomie dans les différentes longueurs d'onde. Et là, cette semaine, on va commencer par l'infrarouge. Voilà pour cette introduction. Alors, le ciel ce soir, qu'est-ce qu'on voit quand le soleil se couche en ce moment? Eh bien...
Des nuages.
Alors, c'est vrai que là, en ce moment, on est gâté question nuages. C'est très sombre.
J'ai l'impression qu'à chaque émission, on dit ça.
Ces derniers temps, un peu, ouais. Il faut reconnaître. Mais on fait comme on peut. Il y a quand même parfois des petits moments, des petites fenêtres où on peut voir les choses. Alors, on a toujours... Mais la région circumpolaire. Alors, la région circumpolaire, oui, certes, la Grande Ourse. On a avec la Petite Ourse, avec Cassiopée. Cassiopée qui est assez rasante sur l'horizon. La Grande Ourse qui a tendance plutôt à être assez haute, hein, en deuxième partie de nuit, enfin en fin de, vers minuit, elle est presque au zénith. Alors un peu vers le nord quand même, mais elle est
bien haute.
Elle
quoi.
Est bien haute. Ouais. Mais on a quand même quelques étoiles vraiment bien brillantes qui apparaissent en fait dès la tombée de la nuit. Avec eh bien en particulier, on voit bien Arcturus. Hein. Alors Arcturus. C'est une étoile légèrement orangée qui fait partie de la constellation du Bouvier, qui est un des gros phares quand même du ciel, et qu'on retrouve en prolongeant l'arrondi de la Grande Ourse, l'arrondi de la Casserole. On tombe sur cette étoile. Si on continue, on tombe toujours dans cette courbe là. On tombe sur l'Épi, dans la Vierge, très basse sur l'horizon. Et on a une autre étoile en fait. Enfin, si on regarde vers l'ouest, on a les Gémeaux quand même de Castor et Pollux qui sont là, et Capella, le cocher qui quand même est aussi très présent dans ce ciel de début de nuit.
Ça se couche rapidement maintenant.
Ça se couche rapidement. Ouais. Ouais. Alors le cocher, le cocher non en fait, il disparaît pas. Hein. Il vient raser l'horizon, mais il ne se couche pas.
Ok.
Et ensuite, on en a déjà parlé, hein, sous la Grande Ourse, vous avez la fameuse constellation du Lion, avec son étoile la bien brillante Régulus. Alors c'est un lion vu de côté, une espèce de sphinx lion. Et l'autre soir d'ailleurs, ça me fait penser à une observation, j'avais jamais remarqué, parce qu'en fait, là où j'observe chez moi, souvent, c'est que la moitié du ciel. Donc je me tords un peu le cou pour essayer de voir l'autre côté et tout. Mais bon, j'attends surtout que ça tourne en fait.
Ouais.
Et là, j'étais dans un endroit entièrement dégagé. Et là, j'ai remarqué que, en fait, Arcturus, on la retrouve aussi en prolongeant la base du lion.
La base du lion, c'est quoi que tu appelles?
Et ben l'espèce de ligne qui sert de...
Le corps?
Ouais.
Ah ouais.
Si tu prolonges là cette ligne là du bas du lion, tu tombes sur Arcturus.
Okay.
De la même façon que quand tu prolonges le petit arc de la Grande Ourse.
Ah oui, oui, d'accord. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a plein de moyens comme ça, connus ou pas connus, où chacun a les siens, de repérer les étoiles et de se faire des petits schémas comme ça.
Ouais, tout à fait, chacun se fait un peu ses petits alignements. Ouais. Et je mentionne quand même aussi dans cette zone-là, entre Lyon et les Gémeaux, on a Mars. Que Mars, qui était dans les Gémeaux là tout cet hiver, elle a commencé à migrer et là elle est dans le Cancer en fait. Donc, vraiment entre les Gémeaux et le Lion. Jupiter là, ça se couche très très vite. Je sais même pas si elle est encore observable. Ça doit être très limite puisque le Taureau est maintenant couché et qu'elle est dans Jupiter et dans le Taureau.
Okay.
Saturne n'est pas encore revenu.
Non.
Donc c'est un petit peu à part Mars, mais qui est petite, hein, il n'y a pas énormément de détails à révéler au télescope. Hein. Donc au niveau planétaire, on n'est pas dans la période la plus faste comme on a pu l'être en décembre, janvier. Là.
Ouais, ouais, et puis même cet été, il n'y aura pas. Avant qu'elle revienne, ça passera quelques mois avant que chaque planète fasse son petit tour pour revenir.
Voilà. Ouais, tout à fait. Alors si ensuite on laisse un peu se dérouler la soirée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir vraiment l'apparition très rapidement du ciel d'été. Alors en fait, on a déjà une partie au moment du coucher du soleil, parce que j'ai dit qu'il y avait donc Arcturus dans le Bouvier, qui est donc à l'est une étoile bien brillante, un peu orangée. Au-dessus, on retrouve la couronne boréale, et ensuite on trouve Hercule. Et juste au-dessus d'Hercule, en fait, on a Vega. Vega qui se lève très très vite, avec aussi Deneb et donc le triangle d'été qui commence à apparaître. Sous Hercule, on a Ophiuchus, le Serpentaire, et puis l'Aigle qui va arriver, la dernière constellation du triangle d'été à monter. Voilà. Et si on continue le déroulé de la nuit, eh bien on a quand même Pégase qui va se lever au bout d'un moment. Et puis on a quand même le Scorpion aussi qui apparaît. Qui devient visible
deuxième partie de nuit.
Ouais. Ouais. Ça fait toujours plaisir. C'est quand même une très belle constellation, ce Scorpion. Voilà pour ce tour du ciel. J'avais envie de vous mentionner un petit alignement, enfin une petite conjonction, là, si on peut appeler ça comme ça, qui aura lieu le vendredi 23 mai à l'aube. Et là, ce jour-là, vous aurez un fin croissant de lune entre Vénus et Saturne. Effectivement, au matin, on peut voir Vénus. Là, ouais, on a dit que Saturne n'était pas revenue. En fait, elle n'est pas observable parce qu'elle est vraiment, elle revient au tout petit matin et elle est dans les lueurs de l'aube. Donc, il n'y a pas vraiment d'observation à faire. Donc, elle va se décaler petit à petit, c'est-à-dire se lever de plus en plus tôt. Mais donc, en été, en fin de nuit, on pourra l'observer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais donc, si vous jetez un œil à l'est, le vendredi 23 au matin, vous verrez un fin croissant de lune, Saturne et Vénus. Bon, c'est toujours un petit plaisir. Voilà pour ce tour du ciel. Camille, alors Camille, vous vous souvenez peut-être qu'elle est déjà venue plusieurs fois dans l'émission. Et là, dernièrement, tu t'étais acheté ton premier télescope, un Dobson 200.
Oui, c'est ça.
Et du coup, tu as fait quelques observations depuis ?
Un petit peu, malgré justement le mauvais temps. Et justement, il y a 3 semaines, j'ai pu le sortir avec 2 copines. Donc, on était dans les Hautes-Alpes. Alors, on était quand même dans un hameau avec quelques lueurs de lampadaires au loin. Mais on a pu observer quelques objets. Et puis aussi, c'est l'occasion toujours de s'amuser avec le télescope, de le prendre en main.
De le manipuler, ouais.
Voilà, ouais. S'habituer au mouvement qui est décorrélé de ce qu'on voit. Enfin, qui est l'inverse, en tout cas.
Et oui.
Et en fait, moi, j'ai un petit livre qu'on m'avait conseillé avec l'achat du télescope pour justement savoir quoi regarder. Je crois que c'est le livre, il doit être de Stellvision. Et en fait, il est pas mal ce qu'il reprend par saison les différents objets qu'on peut voir et par niveau de difficulté. Et donc, il y a tout un descriptif aussi selon le télescope qu'on a. Et aussi, ils mettent en fait l'image qu'on peut voir avec le chercheur pour aider justement à pouvoir repérer.
Le champ d'étoiles en fait qui entoure l'objet qu'on cherche à observer, ils le mettent en fait dans le livre. Donc ça t'aide à pointer en fait.
Ouais, c'est ça. Vu qu'on voit plus d'étoiles dans le chercheur qu'on ne voit à l'œil nu, on est souvent un peu perdu, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Et en tout cas, moi je trouve que ça aide bien. En tout cas, en débutant, ça me guide pas mal. Et donc, on s'est surtout concentré sur la Grande Ourse. Et donc, on a pu regarder M51, qui est une galaxie pas loin du coup de Alcaïde. Mais je crois qu'en fait, c'est même plutôt un objet qui fait partie du champ de chasse, mais ça a l'air d'être plus facile de partir depuis la Grande Ourse.
Oui, parce qu'il est souvent
brillant. Associé avec. Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, son petit nom, c'est la galaxie du champ de chasse.
Ah oui, voilà. et aussi M101, qui est du coup de l'autre côté d'Alcaïde, qui fait une sorte de triangle avec Mizar et Alcor, et avec Alcaïde.
Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as observé ces objets avec le 200?
Ça fait quand même, c'est quand même assez un peu émouvant, je crois, de réussir à chercher quelque chose et de le voir. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que je fais ça avec une autre copine qui s'intéresse aussi à ça. Du coup, ça fait qu'on apprend à deux. Et on avait aussi une autre amie qui était là et qui ne s'y connaît pas du tout. Et en fait, je trouve que c'est aussi toujours sympa de partager avec d'autres gens qui n'auraient pas du tout l'occasion ou qui s'intéressent pas plus que ça à l'astronomie. Et je trouve qu'il y a aussi ce moment de partage avec d'autres gens qui est très chouette. Au-delà de juste le voir pour soi-même, moi je crois que j'aime bien ça. De
partager, prendre le temps, parce que souvent ça prend du temps de chercher, on passe du temps à installer le matos, chercher, ça peut prendre vite du temps, et tout seul ça peut être un peu longué, plusieurs, ouais, c'est sympa.
Voilà, donc on a notre tisane, pour la chaud, notre petit siège, et puis voilà, du coup ça fait aussi que chacune prend le temps de chercher avec le télescope, de le prendre en main, et puis de lire des choses sur ce qu'on regarde pour aller un peu plus loin que juste ce qu'on observe.
Essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière l'image. On observe une galaxie. Tu parlais de la nébuleuse du Hibou aussi.
Oui.
Donc là, c'est 2 galaxies. C'est vrai qu'on observe aussi des nébuleuses.
C'est ça, oui.
Alors on a regardé.
Ouais.
Ou amas globulaires. Enfin, tout ce petit bestiaire de l'astronomie. Et c'est vrai que c'est sympa de faire partager ça. Et puis, on sait pas. Hein, ça se trouve, cette troisième copine dont tu parles, ce sera peut-être le pied à l'étrier pour après essayer de voir un peu plus les constellations, les trucs. On sait pas, en fait, l'impact que ça peut avoir sur les gens et le chemin qu'ils peuvent suivre derrière, en fait, dans l'astronomie, quoi.
Et puis, c'est aussi l'occasion, en tout cas, moi, je trouve, de juste réexpliquer pourquoi on voit certaines étoiles à certains moments de l'année. Enfin, en fait, des choses... Enfin, ça repermet aussi de rediscuter du ciel, de comment ça fonctionne aussi, notre place autour du Soleil, les autres planètes, et pourquoi on en voit à certains moments, pas à d'autres.
Là, c'est sûr que c'est pas si évident. En réalité, il y a une visualisation mentale en fait à se faire pour comprendre un peu tout ça. Géographie étendue, on appelait ça ici.
C'est vrai qu'on en parle peu à l'école, tout ça. On fait les planètes, tout ça, mais comment ça marche un peu concrètement avec les étoiles et tout ça, le Soleil, c'est un peu flou pour beaucoup de gens. Et c'est bien d'en reparler à chaque fois. Ouais.
Bon, bah super. En tout cas, tu parlais là. Je voudrais revenir sur la façon dont tu trouves les objets quand tu pointes. C'est effectivement, on l'a déjà dit, mais c'est bien beau d'acheter un télescope, mais après la question c'est de savoir vers où je le pointe, qu'est-ce que j'observe et comment. Et en fait, c'est là aussi qu'il y a un apprentissage à faire. Et en fait, effectivement, on a besoin d'une carte du ciel. Donc là, en fait, ton livre, ce qui te permet de faire, c'est d'économiser une carte du ciel parce qu'il te met dans le chercheur quelque chose où t'as une étoile brillante, si je comprends bien, et t'es pas trop loin d'une étoile brillante.
Ou pas forcément. Ou pas. Des fois, peut y avoir des objets qui sont difficiles à trouver.
Voilà, ouais.
Ils font pas une liste exhaustive de tous les objets qu'on peut voir à chaque saison, mais il y a différents niveaux de difficulté. Mais en tout cas, c'est vraiment pour un peu guider et pour essayer d'avoir un peu, oui, de comprendre par quel chemin on peut arriver à cet objet-là.
Trouver le chemin d'étoiles. En tout cas, toi, tu trouves que ce livre, il est bien, tu t'en sers bien, ça te convient, quoi.
Oui, voilà.
C'est chouette,
bien pratique, ouais.
Ouais, super. Est-ce que tu peux redonner la référence?
Et ben là, je l'ai pas, mais okay. Moi, je dirais que c'est le livre de Stellvision, et peut-être qu'il s'appelle Débuter au télescope ou Le ciel au télescope. C'est
d'accord.
Peut-être plutôt Le ciel au télescope.
Ben super, merci Camille. On va passer à la suite, et donc à la cosmo-mytho-rubrique. Pierrick, cette semaine, tu vas donc nous parler de la pensée du cosmos grec.
Et ouais, je voulais vous parler un peu de comment les Grecs imaginaient l'univers, comment à leur époque, avec leur connaissance de l'époque et leur évolution de l'époque, comment un peu ils pensaient tout ça et comment ils imaginaient ça. Alors au tout début, le plus simple de s'imaginer, c'est que la Terre est plate, c'est une espèce de plane, de discoïde, comme une sorte de pizza un peu épaisse. Ça, c'est le plus simple, avec un ciel et un firmament. Mais les Grecs, ils font beaucoup de géométrie. Et on le sait tous, hein, il y en a plein de Grecs qui font de la géométrie. Et à force de réfléchir à ce qu'ils observent, ils en arrivent très vite à ce que la Terre est une sphère. Donc ça, c'est avec Platon et Aristote qu'ils arrivent à découvrir ça. On avait déjà parlé dans l'émission, mais il y a cette idée du bateau qui part sur l'horizon, et qu'au début il y a la coque qui disparaît, et puis à la fin il y a le bout du mât qui disparaît. Donc c'est, en fait, on est sur une espèce de courbe, donc une sphère, et donc on imagine que voilà, la Terre est sphérique.
Mais c'était un des premiers indices qui pouvait l'indiquer.
Ouais, ouais. Donc assez vite, voilà, ils se disent que c'est sûrement sphérique. Et Anaximandre, un élève de Thalès, lui remarque que tout tourne autour de l'étoile polaire. En observant le ciel sur longtemps, on remarque ça, que effectivement tout tourne autour de l'étoile polaire. Et donc on arrive à une espèce de sphère céleste qui varie avec la latitude. Oui, voilà, on tourne autour d'un axe, quoi. Donc ça varie en fonction de la latitude. Et du coup, on se dit que c'est pareil, on est sûrement sur une sphère, ou tout du moins un cylindre. C'est à voir. Et si on va un peu plus loin, il y a Platon et Eudoxe de Cnide qui eux font beaucoup de géométrie, pareil, et qui élaborent un modèle à deux sphères. Donc ça, c'est le modèle grec assez classique de cosmologie, en fait. C'est le modèle à deux sphères. Donc tu as une sphère où il y a la Terre et une autre sphère qui englobe tout le reste. Un peu comme un œuf, où à l'intérieur il y a le jaune et autour le blanc, c'est un peu tout le reste. Mais ça a un même centre. Il s'imagine que tout a un même centre, donc le centre de la Terre en gros. Et ça amène à un concept un peu d'équateur céleste, comme l'équateur terrestre. Donc là on arrive à des choses comme l'écliptique. L'écliptique, c'est un peu le plan du système solaire, le plan où il y a le Soleil. Et toutes les planètes, elles tournent autour du Soleil, mais sur un même plan. Donc ça amène pas mal de choses. Ça amène la trajectoire du Soleil annuelle, qui donc tourne sur un an. Ça amène à des points de rencontre de l'écliptique avec l'équateur terrestre. Et donc ça amène les équinoxes, et les points les plus éloignés amènent au solstice. Donc déjà, à partir de là, ils avaient quand même compris pas mal de choses. Donc ça, c'était un... Et cette théorie-là, elle est restée longtemps. Elle est restée jusqu'à la Renaissance, quoi. Donc,
Ils avaient clairement compris déjà plein de trucs à l'époque de la Grèce antique, y compris le fait que tout tournait autour du soleil. Il y avait déjà des modèles comme ça, alors qu'il n'avait pas forcément convaincu tout le monde, mais qui existait déjà. Ils avaient déterminé la taille de la Lune, la taille de la Terre, la distance Terre-Lune, juste avec trois bouts de bâton et du calcul de trigonométrie. C'est quand même très ingénieux, quoi.
Ouais, ils en ont fait beaucoup. Alors, tout ça, c'est un peu le concept scientifique de leur façon de voir. Donc, c'est ce qui a amené les bases de notre cosmologie actuelle, hein. Et c'est toute une façon de penser. Après, on va aller faire un tour plutôt du côté religieux de leur époque. Donc, eux, ils imaginaient qu'il y avait la Terre et autour un espèce de firmament qui englobait un peu tout le reste. Donc, le Soleil, la Lune, les étoiles, les planètes. Planètes, je le rappelle au passage, ça veut dire en grec astre errant. Parce qu'effectivement, les planètes n'ont pas la. Ne bougent pas pareil par rapport au reste du ciel. Elles ont un mouvement différent des étoiles par rapport au fond du ciel.
Mais elles se déplacent par rapport aux étoiles, alors que les étoiles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres.
Oui, voilà.
Elles tournent comme si elles étaient sur une même sphère, alors que les planètes se baladent là-dessus, quoi. Comme on le voit là, il suffit d'observer Mars, on en parle. Hein. Mars, elle était vraiment... avant, elle faisait un triangle avec les Gémeaux. Là, elle a fait une petite ligne. Maintenant, elle se déplace vers Régulus. On le voit très clair, quoi.
Ouais. Et donc, il y a une espèce, ils appellent ça l'océan, cette espèce de autour de la Terre, quoi, qui entoure le monde connu, quoi. Et aussi le monde souterrain, le monde des morts, le Tartare. Voilà. Et tout ce monde est représenté par. Alors là, on va partir dans des délires de mythologie grecque où des fois j'ai du mal à tout comprendre, mais. On va essayer. Donc tout ce monde extérieur, cet océan, est représenté par le dieu Ouranos, qui est le fils et en même temps l'époux de Gaïa. Gaïa qui est la première créature à sortir du chaos primordial. J'y reviendrai après. Et donc oui, ils ont la particularité d'être des fils et des époux en même temps. Donc Gaïa qui a créé le ciel étoilé, donc Ouranos, qui est le lieu de résidence des dieux. Parce que les dieux, c'est quand même... Ils vivent dans les étoiles. Et ces deux ensemble, donc ils sont époux, ils donnent naissance aux titans. Aux titans, je ne sais plus comment ils sont, 12, je ne sais plus. À trois cyclopes, trois hécatonchires, je ne sais pas si je prononce bien. Alors hécatonchire, c'est... Je ne le connaissais pas, celui-là, c'est un espèce de monstre avec 50 têtes et 100 bras. Je trouvais ça pas mal. Mais comme Ouranos, il haït ses fils, il les envoie à l'intérieur de Gaïa, donc du coup dans la Terre. Voilà les titans. Gaïa, qui est furieuse et de ses gestes, elle fabrique une faucille soit en silex, soit en une autre matière, en adamantium. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé ça, l'adamantium, je ne sais pas si vous regardez.
C'est les griffes de Serval.
Ouais. C'est une matière qui existe vraiment, hein. C'est le métal le métal connu le plus dense. Il est impénétrable et une fois qu'il est formé, on peut pas le reformer ou le déformer. Une fois qu'il est fait, c'est comme ça. Pour moi, l'adamantium, c'est les griffes de Wolverine dans les X-Men. Et donc avec cette faucille, elle demande à leur fils le plus jeune, Cronos, le plus jeune des Titans, de castrer son père. Donc il y arrive, et avec cette faucille, il coupe les testicules de son père et les jette sur terre, ce qui crée d'autres dieux et moult autres histoires que je ne développerai pas ici. Et ça a permis aux titans de régner sur terre et à Cronos de prendre la place de son père et d'assurer le commandement suprême du cosmos. Voilà un peu cette histoire. Si je reviens sur Gaïa, donc Gaïa, c'est la première créature à sortir du chaos primordial, comme je l'ai dit. Et alors, elle sort de ce chaos en même temps que le Tartare, donc le monde des morts, le monde souterrain, en même temps que Nyx, la déesse de la nuit, en même temps que Euréb, la déesse des ténèbres, en même temps que Eros, la divinité de l'amour générateur. Il faut bien tout ça pour faire un monde. Et voilà. Et oui, je voulais parler de Océan aussi. Donc ça, c'est un titan, donc c'est un de leurs enfants, qui est le fleuve qui entoure le monde. Donc voilà, un petit début de comment à l'époque grecque, alors donc là on est en moins 500 en gros, entre moins 500 et l'Antiquité quoi, comment les Grecs ils voyaient le monde à leur époque, avec leur connaissance.
Leur légende de création de l'univers un petit peu.
Ouais, un peu, ouais.
Il me semble que Chronos, dans le monde grec, il y en a deux. Il y a celui dont tu parles qui s'écrit avec un K.
Ouais.
Et après, il y a un Chronos écrit CH et qui a donné tout ce qui est chronomètre, etc., qui est une dieu du temps. Mais c'est pas les mêmes.
Ah ouais.
Et Chronos avec un K, ouais, il est associé à Saturne. La planète Saturne.
Okay,
de la même façon que Jupiter, c'est Zeus, oui, etc. Oui. Saturne, c'est Chronos.
Mais alors, c'est...
Puisque Zeus, c'est un fils de titan. Si ma mémoire est bonne.
Ah, oui, oui.
Donc Chronos, c'est la génération d'avant, quoi. C'est le grand-père.
Ah, oui. Mais selon ce que je trouve comme source, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est pas évident de.
Oui, il y a des versions, ouais. Des versions différentes. Non, mais c'est sûr, hein, toutes ces mythologies, elles font un peu rêver. Elles sont vraiment issues d'autres cultures, d'autres façons de penser. Et c'est toujours chouette.
On a l'impression que c'est un mix de plein de choses qui existaient avant et qu'ils ont essayé tout mélanger. Je sais pas comment, mais en tout cas, c'est marrant. Ouais.
Ok, bah merci Pierrick. On va passer à la pause musicale. Alors cette semaine, là c'est Camille qui nous a ramené la musique. C'est un groupe de Croatie qui s'appelle Jen, avec le morceau Igra Protona Electrona I Neutrona. et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors après ce petit intermède musical fort sympathique, hein, avec un titre adapté, on va passer à la suite de l'émission avec la chronique astrale. Cette semaine, je vais vous parler donc d'astronomie infrarouge. Donc, comme je disais là en préambule, c'est l'idée un peu d'explorer ce qu'on observe en astronomie, en astrophysique, dans les différentes longueurs d'onde du ciel. Alors, on a déjà parlé hein, du spectre électromagnétique et ce que nous on appelle lumière, le fait que ce soit en fait qu'une partie très restreinte de ce spectre, donc qu'on appelle le visible. Alors le visible, en fait, le spectre électromagnétique, le rayonnement électromagnétique, il est caractérisé par sa longueur d'onde, puisque c'est une vibration du champ électromagnétique, de la même façon que le son est une vibration de l'air ou de l'eau. La différence, et c'est pour ça que la lumière peut se propager dans l'espace, où il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il y a le vide, mais il y a quand même ce champ électromagnétique qui baigne tout l'univers. Et donc la lumière peut se propager, mais c'est vraiment l'idée d'une onde, quoi. Donc si ce qu'on appelle la longueur d'onde, si on fait une analogie avec par exemple une onde à la surface de l'eau, donc des vagues, hein, on tape un coup dans l'eau, ça crée des vagues. Vous regardez la distance entre les deux crêtes, par exemple, ça vous donne la longueur d'onde. Donc on imagine la même chose pour la lumière, pour le champ électromagnétique. Et donc le visible, on est entre 0,3 et 0,75 micromètres. Un micromètre, c'est un millionième de mètre. Donc entre 0,3 et 0,75, ça c'est le visible. 0,75 étant le rouge et 0,3 le bleu. Et l'infrarouge commence donc à 0,75 micromètre et va aller jusqu'à à peu près 300. Donc c'est assez étendu hein, déjà.
D'accord. Ouais.
Donc pareil, il y a des infrarouges proches, moyens, lointains, etc. Donc c'est ce rayonnement-là. Si on continue le spectre électromagnétique après les infrarouges, donc des longueurs d'onde plus grandes, on trouve les micro-ondes. Et ensuite, les ondes radio, donc celles par lesquelles vous pouvez écouter RDWA si vous êtes sur votre bande FM. C'est par Internet, c'est un peu différent. Et si on prend le spectre dans l'autre sens, eh bien, sous le bleu, eh bien, on va trouver l'ultraviolet, puis ensuite les rayons X, et finalement les rayons gamma. Et on voit en fait que plus la longueur d'onde est petite, et plus en fait le rayonnement est énergétique. Donc c'est l'idée en fait qu'une longueur d'onde petite, ça veut dire que vous faites beaucoup plus vibrer la matière, vous la faites vibrer beaucoup plus vite, et donc vous transportez plus d'énergie. Donc voilà pour ce petit cadre. Alors, je vais commencer par vous parler de la découverte des infrarouges. Parce que les infrarouges, donc comme on vient de le dire, ça fait pas partie du spectre visible, donc on peut pas les voir. Donc il y a forcément un moment où on les a découverts, puisqu'on n'y avait pas accès. Et donc ça, c'est Herschel qui a découvert les infrarouges en 1800. Alors Herschel, on a déjà eu l'occasion de parler de lui dans cette émission. Il est principalement connu pour être le découvreur d'Uranus. Alors il est assez marrant ce Herschel quand même, parce que lui déjà à la base, il était allemand et c'était un musicien. Il a commencé sa vie comme musicien allemand. Ensuite il a émigré en Angleterre, il s'est fait naturaliser anglais et il est devenu astronome du roi.
Pas mal.
Un drôle de parcours. Et il a découvert Uranus, entre guillemets, par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, il observait le ciel et il est tombé dessus.
Une petite tache bleue, c'est quoi ? Ah ouais.
Donc wow. C'est quand même... il est vraiment tombé dessus, en fait.
Ah ouais.
Même une chance. Ouais. Ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, c'est quand même intéressant.
Déjà, non mais attends, oui. Tomber dessus, tu tombes dessus, mais déjà, il faut te dire, tiens, c'est quoi ce truc ? C'est déjà pas évident, ça.
Oui, puis ça commence avant, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un télescope, et lui, en fait, il était assez pauvre, donc il n'était pas non plus complètement minable, il n'avait pas du tout les moyens de s'acheter un télescope en 1800, donc il l'a construit lui-même, il a galéré pendant des années avant d'arriver à faire un miroir potable, et il a fini par se faire un télescope de 17 cm. De diamètre.
Ah ouais, ok.
Avec des miroirs en bronze. Et de là, il l'a mis dans son jardin, il a fait des observations, et de là, il est tombé sur Uranus. Alors, juste pour la petite histoire, je rappelle que c'est à partir de l'observation d'Uranus, et qu'on a découvert des irrégularités des perturbations, en fait, dans son orbite, et qu'on s'est dit, il doit y avoir une planète, et c'était Neptune.
Derrière encore.
Et que ça a été la même chose pour Pluton depuis Neptune, en fait. Mais à la base, Uranus. Sorti du chapeau par Herschel. Bref, bon.
Wow.
Donc ce monsieur Herschel, non content d'avoir découvert Uranus, en fait, il a aussi découvert les infrarouges. Donc en fait, lui, il s'intéressait au climat. Et ils s'étaient rendu compte que les étoiles, eh bien, avaient un rayonnement qui pouvait varier avec le temps. Voilà, une étoile, ça, c'est pas toujours pareil la lumière qu'elle émet. Donc, il y a des étoiles variables, par exemple.
Ouais, ouais.
C'est sûr qu'il a pas forcément vu les supernovas. Tu fais une étude dans 5 ans, tu vois pas forcément. Mais tu vois des étoiles variables, par exemple.
C'est vrai.
À l'époque, on savait pas ce que c'était. Et donc, il se dit, ben, peut-être que le Soleil, lui aussi, il varie. Et que ça pourrait expliquer une influence sur le climat.
Ah ouais.
Bon, on sait maintenant que c'est pas tout à fait vrai. La chaleur sur Terre, elle est pas due au pic d'activité du soleil. Par contre, on a, comme on a eu là l'année dernière, on peut avoir des aurores boréales, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui fait le réchauffement climatique, n'en déplaise à certains. Alors ensuite, donc il observe le soleil et ça commence de là. Alors le problème avec le soleil, c'est qu'il est beaucoup trop fort. On peut pas observer directement. Déjà, on rappelle, hein, vous mettez l'œil à l'oculaire derrière un télescope si vous observez le soleil, vous faites des dommages permanents à l'œil. Donc il s'est dit, je vais mettre des filtres. Il commence par mettre un filtre rouge.
Tu sais ce que c'était comme matière ou...
Non, je ne sais pas. Parce que le truc, c'est qu'à l'époque, on pensait que toutes les couleurs transportaient la même quantité de chaleur. Et lui, en fait, il filtre la lumière du soleil, il met un filtre rouge, il se rend compte qu'on coupe presque toute la lumière, donc ça lui permet d'observer le soleil, mais que ça laisse passer la chaleur. Et il met un filtre vert, il se rend compte que bon, ça coupe moins la lumière du soleil, puisque le pic de luminosité du soleil, il est quand même jaune-vert. Il y a plus de vert que de rouge, en tout cas on voit bien sa couleur, hein, au soleil. Donc, mais par contre ça coupe la chaleur. Alors il décide de prendre un prisme pour décomposer la lumière du soleil et d'utiliser des thermomètres qu'il va positionner au niveau des différents endroits du spectre qu'il obtient.
Wow. Ah ouais. Ça en visuel quoi,
ouais.
En direct quoi.
C'est ça.
D'accord, ouais, ouais.
Et de là, en fait, eh bien, il se rend bien compte que il se rend compte que le rouge transporte plus de chaleur que le vert et que le vert transporte aussi plus de chaleur que le bleu. Donc, il se rend compte de ça. Et du coup, il en déduit l'existence d'un rayonnement invisible qui obéit aux lois de l'optique puisque on peut décomposer, il est dévié par le prisme, etc. et qui transporte la chaleur et qu'il appelle les rayons calorifiques à l'époque. Donc, il s'agit, en fait, de la découverte des infrarouges.
Ah ouais.
Donc ça, c'était en 1800. Alors ensuite, l'astronomie infrarouge, elle a mis du temps à se développer, bah, parce qu'il fallait aussi avoir des techniques un peu différentes. C'est pas juste un miroir avec un télescope. Même si pour l'infrarouge proche, très proche de 0,75, on arrive en fait, une fois qu'on a découvert et qu'on sait qu'il y a des infrarouges, on arrive à faire des observations avec des détecteurs un peu classiques, avec des télescopes, mais sinon, en fait, assez vite, il a fallu développer une autre technologie. Alors, il y a une apparition d'une nouvelle technique, qui est le thermocouple, en 1821. Et là, c'est un effet physique, en fait, c'est que si on a deux métaux différents qui sont pas à la même température et qu'on les met en contact, ça crée un courant électrique. Donc ça, c'est découvert en 1821, et donc ça permet, en fait, bah, une fois qu'on calibre un peu tout ça, avec voilà, on choisit des types de métaux, on mesure en fonction d'une température connue, ça donne quel courant électrique, ça devient des thermomètres en fait, qui deviennent beaucoup plus précis en fait que les thermomètres à mercure qu'on utilisait. Et en 1830, il y a un astronome Piazzi qui a décidé de l'utiliser pour observer la Lune, et il constate. Donc il observe la Lune avec son truc, et donc lui il observe dans des observatoires en altitude, en montagne. Et il se rend compte en fait que plus il monte en altitude, et plus il reçoit d'infrarouges. Et là ça a été le début aussi du premier indice, parce que je vais en parler, mais c'est un des gros problèmes qu'on a avec l'infrarouge, c'est que l'atmosphère terrestre en absorbe une énorme partie. Donc lui il se rend compte que de ça, il se dit bah, si plus je monte, plus il y a d'infrarouges, c'est sûr que c'est pas la Lune qui change. Donc c'est-à-dire que c'est l'atmosphère qui, c'est la seule chose qui varie, c'est l'atmosphère. Donc il doit y avoir quelque chose, une absorption qui est due à l'atmosphère. Et bon, voilà, je vais vous passer un peu les développements pas à pas de tous les infrarouges, à savoir qu'en fait le réel essor en fait de cette technologie, c'est après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945. D'ailleurs, au départ, en fait, c'était l'armée allemande qui avait mis au point des lunettes de vision nocturne, en fait. Et qui était basé sur détecter le rayonnement thermique, etc. Et de là, on a commencé à faire des détecteurs un peu précis qui ensuite ont été utilisés en astronomie pour observer le ciel dans cette longueur d'onde. Alors, on a donc deux problèmes, en fait, quand on veut faire de l'astronomie infrarouge. Donc, le premier, je l'ai mentionné, c'est que, en fait, c'est l'eau de l'atmosphère qui absorbe le rayonnement infrarouge.
Ouais.
Donc il y a une énorme absorption, il y a une partie qui passe, mais il y a quelques endroits précis où ça passe, mais le gros quand même est absorbé. Et ensuite, il y a un autre problème, en fait, c'est que là, on est en train de mesurer les chaleurs, mais que donc d'objets qui sont faibles, qui sont dans le ciel. Mais en fait, la Terre, les mers, rayonnement thermique énorme en réalité, puisque c'est pas du tout un caillou froid à même température que l'espace. Donc en fait, ça vient perturber beaucoup et compliquer les observations.
Les compréhensions.
L'autre truc, c'est que le détecteur lui-même a besoin d'être refroidi, en fait, pour pouvoir détecter des petites quantités de chaleur. On se doute bien que si vous avez une casserole d'eau à 100 degrés, vous versez une petite goutte d'eau à 1 degré, il va pas se passer grand chose.
Ouais.
Donc vous êtes obligé de refroidir tout ça. Donc là aussi, ça induit des technologies, qu'on n'avait pas à l'époque, que maintenant on a développé. Alors, dans les années 60, ils ont commencé en fait à la fois à développer les détecteurs et à les embarquer dans des avions, dans des ballons sondes, dans des fusées sondes, pour s'affranchir de cette idée d'atmosphère. Et là, ils ont commencé à découvrir des sources dans le ciel qu'ils n'avaient jamais vues. Des trucs qui, d'un coup, devenaient lumineux dans ces longueurs d'onde, alors que dans le visible, ça n'allait pas du tout. Et voilà, je vous passe tout le développement technologique, mais c'est arrivé jusque en 1983, où là, il y a le premier télescope spatial infrarouge qui a été lancé, qui s'appelait, par la NASA, qui s'appelait IRAS, et qui a commencé à donner vraiment les premiers résultats intéressants de tout ça. Voilà pour cette petite historique, on va dire, sur l'astronomie infrarouge. Et là, maintenant, je vais vous parler un peu de l'intérêt. Qu'est-ce que, du coup, on a réussi à observer? Qu'est-ce que ça nous permet d'étudier ces fameux infrarouges? Alors, la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de régions de l'espace qu'on n'arrive pas à observer parce qu'elles sont masquées par des gros nuages de gaz ou de poussière qui absorbent le rayonnement visible. Donc, on peut pas voir ce qu'il y a derrière. Mais le truc, c'est que les rayonnements infrarouges, eux, ils passent.
Ah ouais.
Donc, en fait, on arrive à étudier, par exemple, les zones, le centre de notre galaxie. On l'observe en infrarouge parce que sinon, c'est inaccessible. C'est trop dense avec toutes les poussières, tous les gaz qu'il y a, on n'arrive pas à passer. Et du coup, ça devient super intéressant pour étudier les zones de formation d'étoiles. Puisqu'on sait qu'ils sont très denses en poussière. Il y a énormément de gaz, en fait, et de poussière qui sont là, qui s'amalgament, qui se mettent qui vont créer l'étoile dans certaines conditions. Et du coup, en réalité, pour l'étude de l'évolution stellaire, et en particulier de la formation des étoiles, l'astronomie infrarouge, elle a été d'un très, très grand intérêt. La deuxième chose qui est intéressante aussi dans l'astro infrarouge, c'est que il y a certains objets qu'on ne peut voir qu'en infrarouge. Dans le visible, ils émettent qu'en infrarouge, ou alors dans le visible, ils sont tellement froids, tellement faibles qu'en fait on les détecte pas.
Ouais.
Donc là, il s'agit effectivement d'objets faibles et froids. Donc certaines étoiles qui peuvent être très froides. Il y a des galaxies qui émettent dans l'infrarouge. Je vais y revenir aussi. C'est évidemment les nuages de poussière qui sont froids aussi, qui n'émettent pas forcément beaucoup de lumière. Les naines brunes, c'est les plus petites des étoiles, les naines brunes. Et puis les planètes. Et c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est parce que on a réussi à observer en fait les disques de matériaux qui sont autour des proto-étoiles. Donc c'est ce que je disais, les zones de formation d'étoiles. Mais en allant plus loin, en fait, ça permet d'observer le disque d'accrétion. C'est-à-dire, une fois que l'étoile est formée, il reste un disque, les planètes ne sont pas encore formées. Donc il y a tout un tas de petits trucs qui orbitent qui, après, vont donner des planètes. Et c'est le cas, par exemple, là, sur Beta Pictoris, par exemple. C'était un des premiers systèmes qu'on a détecté. Et du coup, en fait, là encore, l'astronomie infrarouge a permis beaucoup d'avancer en planétologie, sur la compréhension des systèmes planétaires.
Ah ouais.
La troisième application intéressante, en fait, elle est liée à l'expansion de l'univers et donc au redshift, dont on a déjà parlé, donc le décalage vers le rouge, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qu'on a même traité in extenso dans certaines émissions. Et donc je rappelle en fait que l'univers étant en expansion, les objets qui sont très loin de nous, ça veut dire qu'ont été formés en fait il y a très longtemps, s'éloignent de nous très vite. C'est ça l'expansion de l'univers. Plus un objet est loin, plus quand on mesure sa vitesse apparente, on a l'impression qu'il s'éloigne de nous à une grande vitesse. Donc l'image qu'on prend toujours, hein, le cake au raisin. Vous faites cuire un cake au raisin et puis bah, les raisins qui sont à l'intérieur de la pâte qui va gonfler en cuisant en fait vont s'éloigner les uns des autres. Et évidemment, plus ils sont loin en distance, plus il y a de pâte entre les deux et plus du coup ça les éloigne vite. C'est un peu ça l'idée. Donc ces galaxies lointaines, elles apparaissent non pas dans le visible mais dans l'infrarouge décalé par effet Doppler. Voire dans le micro-ondes pour les plus lointaines. Mais il y en a déjà beaucoup, surtout dans l'infrarouge. Donc là encore, l'astronomie infrarouge a une grosse utilité en cosmologie cette fois. Ouais, évolution stellaire, planétologie, cosmologie pour l'observation des objets lointains. Alors j'avais juste envie de faire ce petit paradoxe là, c'est que en fait ces galaxies, souvent on dit des galaxies jeunes, des jeunes galaxies parce qu'en fait elles jeunes au sens où elles ont été formées au début de l'univers, et elles nous apparaissent jeunes puisque la lumière étant à 300 000 km par seconde, il y a ce décalage temporel dont on a déjà parlé plein de fois, qui fait que on le sait, hein, les étoiles qu'on observe dans notre galaxie, grosso modo leur lumière elle va nous mettre, selon la distance à laquelle elles sont, mais autour de ça peut être entre 4 et 100 000 ans de décalage. Vous observez une galaxie qui est à 2 millions d'années-lumière, vous la voyez telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. Donc si maintenant vous vous amusez à détecter des galaxies qui sont à 3 milliards d'années-lumière, vous les voyez telles qu'elles étaient il y a 3 milliards d'années. Donc en fait, vous observez des objets que vous voyez jeunes, mais qui en réalité sont très vieilles. Si on reprenait temps réel des choses sans le décalage. Moi, c'est toujours ce genre de petit délire qui est toujours amusant. Bon, bref. Et voilà. Et puis, là, y a aussi le dernier cas un peu d'intérêt de l'astronomie infrarouge. C'est d'apporter un complément d'information sur des objets qu'on voit aussi dans le visible. Et là aussi, ça permet de compléter les choses. Et en particulier, d'avoir des indications sur la composition chimique. Puisqu'il y a tout un tas de raies d'absorption de certains éléments chimiques et surtout de molécules qui se trouvent dans l'infrarouge. Et en particulier l'eau, par exemple. Les raies d'absorption de l'eau, puisqu'on l'a dit, l'atmosphère terrestre l'eau de l'atmosphère terrestre absorbe le rayonnement infrarouge qui vient de l'espace. Mais du coup, ça veut dire que quand vous observez un rayonnement infrarouge d'un objet, vous allez voir des raies d'absorption. Vous allez voir l'absorption de l'atmosphère, justement, des planètes. Donc, s'il y a de l'eau dedans, vous allez le détecter dans l'infrarouge. Et il y a tout un tas, l'ammoniac aussi, il y a tout un tas de substances qu'on détecte dans l'infrarouge. Donc, observer en infrarouge, ça donne des renseignements sur les compositions chimiques.
Ça me fait penser au télescope James Webb.
Alors, le James Webb, il a une partie infrarouge.
Qui observe en infrarouge beaucoup et qui donne beaucoup plus de détails sur des choses qu'on observait en visible. Et
c'est ça.
Qu'on voit beaucoup plus de choses et beaucoup plus de précision. Ouais,
oui.
Qu'avant. Ouais.
Et c'est là-dessus que je vais clôturer un peu cette rubrique. C'est le fait de dire en fait que l'aspect du ciel est très très différent en infrarouge. Si on avait des yeux infrarouges, on verrait pas du tout la même chose. Donc là, je vous engage simplement à aller sur Internet, taper ciel infrarouge, vous allez tomber dessus et vous voyez le comparatif avec le ciel qu'on a en visuel et vous voyez clairement que c'est pas du tout pareil, quoi. En particulier, par exemple, toutes les zones de gaz interstellaire ou de poussière qui nous, du coup, nous semblent opaques, noires, là, deviennent brillantes. Puisqu'on voit le rayonnement thermique en fait de ces masses de gaz qui sont chauffées par les étoiles qui sont dedans ou derrière, quoi. Et donc par exemple, si on se met à 2 micromètres, l'étoile de longueur d'onde, l'étoile la plus brillante du ciel, c'est Bételgeuse, la géante rouge d'Orion. Si on se met à une autre longueur d'onde, à 10 micromètres, ce sera Eta de Carène, dans l'hémisphère sud. Alors que dans le visible, l'étoile la plus brillante, c'est Sirius, dans le grand chien.
Tout est une question de point de vue.
On a vraiment ce spectre électromagnétique qui en réalité est très vaste. Et toujours cette idée que ce qu'on appelle le visible en réalité n'est qu'une toute petite partie de l'information qui est véhiculée par la lumière au sens plus large.
Le champ électromagnétique,
tout à fait.
La lumière, c'est la même chose.
C'est la même chose.
Mais c'est sûr que ça fait penser qu'on a l'impression de tout voir, tout connaître, mais finalement, comme tu viens de le dire, on n'en voit qu'une toute petite partie qui... qui est bien peu de choses face à tout ce qu'il y a.
C'est ça, si on applique ça à notre cerveau, ça...
Ça aussi, une couche de plus.
Ça nous donne un petit peu d'humilité, voilà, on va essayer. C'est ça, voilà. Ouais.
Merci Fred.
Avec plaisir, voilà pour cette émission. On espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et on vous souhaite une bonne semaine et de belles observations. À la semaine prochaine.